Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Yvan Rioufol, quel bilan tirez-vous des violences urbaines liées à la victoire du PSG?
Eh bien, écoutez, devant la débandade de l'État, devant son effondrement, ce que je retiens en premier lieu, c'est l'omerta. L'omerta officielle, c'est le refus d'admettre ces évidences de la part du discours officiel, d'un côté, et de la part des médias dits labellisés, des médias mainstream. Pour le ministre de l'Intérieur, je vous rappelle que la situation, qui a été donc catastrophique, a été, je le cite, globalement sous contrôle, alors même que Paris et 70 autres villes ont été la cible de pillards et de casseurs. Lundi, Libération, par exemple, a commenté l'événement en 20 lignes, en fin de page. Ce n'est que ce matin que le Parisien fait sa une sur ces événements, ce chaos qui a affolé le monde entier. Donc, cette omerta est vraiment une donnée politique. Et c'est une omerta qui s'est confirmée également par le refus têtu de faire le lien entre ces violences et l'immigration de masse, au prétexte, en effet, que ces jeunes sont des jeunes issus de l'immigration, qui sont des jeunes qui ont maintenant la nationalité française. Mais le lien, malgré tout, peut être fait entre leurs origines immigrées, les origines immigrées de leurs parents ou de leurs grands-parents, et leur statut de Français aujourd'hui. J'ai entendu, par exemple, le criminologue Alain Bauer replacer ces insurrections dans le cadre de 1000 ans de jacquerie, en y voyant, dans le fond, un signe d'intégration à l'histoire française et à ses révoltes, à ses révolutions, sans voir effectivement la rupture qui est instillée dans ces refus de se reconnaître dans la France française. D'autres se sont contentés de parler de traditions hooliganistes ou de rituels festifs qui, naturellement, sont tout à fait à côté de la plaque. Il a été également de bon ton, toujours en parlant d'omerta, d'exclure tout lien entre ces violences et le football. Alors, il est exact, naturellement, que le football ne se réduit pas aux violences, et on a vu qu'à Lens, ça s'était très bien passé. La majorité des supporters de football ne sont pas des voyous, je l'entends, naturellement. Mais j'ai regardé, malgré tout, les images, et l'on a pu constater, par exemple, dans les tribunes du PSG, le déploiement d'un immense, une immense banderole « Free Palestine », donc vantant la Palestine et sa résistance islamiste à Israël, tandis que le Qatar était partout inscrit, y compris au cœur même, y compris sur les maillots des joueurs qui ont entouré le président de la République quand ils les ont reçus à l'Élysée. Or, on a pu voir également sur les vidéos des jeunes gens crier « Free Palestine » en reproduisant précisément ces messages qui ont été insufflés, notamment par le Qatar, puisque les supporters du PSG, le PSG appartenant au Qatar, reprenaient également ce slogan de Free Palestine. On a vu d'ailleurs un manifestant brandir un mortier en direction d'une foule et en disant « ça, c'est pour les Juifs ». Donc, on ne peut pas édulcorer tout ceci, il faut nommer les choses. Donc, ce que nous avons eu sous les yeux n'était pas seulement un rituel de violence, bien entendu, de jeunes délinquants. Nous avons eu là la répétition générale d'un affrontement, de la Nouvelle France de Mélenchon, contre des Français indigènes, dans une sorte de guerre de rue, voire dans une sorte de pré-guerre civile. Est-ce que l'on... D'ailleurs, ces scènes de violence ont été telles que le commissariat du 8e arrondissement, ce n'a pas été beaucoup dit non plus, a été pris d'assaut par les émeutiers. Ce que les médias ont voulu taire, dans le fond, c'est ce refus du vivre ensemble de cette jeunesse issue de l'immigration qui est cornaquée maintenant par la France insoumise à travers sa Nouvelle France et par le Qatar dans ses revendications de plus en plus identitaires, de plus en plus politique, j'allais dire de plus en plus islamisée. Et la France est donc attaquée, et dans ce cas-là, la France doit pouvoir entrer en résistance.
Et alors, oui, justement, à ce sujet, les Français sont-ils prêts, justement, à entrer en résistance?
Je l'espère. Alors, j'ai entendu dimanche Emmanuel Macron se faire l'écho de l'irritation colossale qui vraiment parcourt aujourd'hui l'opinion, même si cette irritation n'est pas répercutée, comme je l'ai dit, par les médias officiels. On l'a entendu répéter d'une manière très insincère, c'est fini, je le cite là, c'est fini, on en a ras-le-bol, c'est terminé. Il avait dit exactement la même chose un an auparavant pour des scènes un peu similaires. Naturellement, rien ne sera à attendre du président de la République, qui est celui qui a voulu cette société ouverte, cette société multiculturelle, cette société islamisée. Ce que nous voyons relève plus gravement, et c'est ceci qu'il faut analyser, d'un choc de culture, d'un choc de civilisation. d'un choc entre deux France. Et ce choc ne se résoudra pas seulement, il en faudra bien sûr par des mesures de police ou de justice, mais il faut aussi poser le problème de la cohabitation de ces deux France et refuser de se plier aux exigences des minorités. Il faut donc rétablir, dans le fond, un rapport de force en faveur de la République face à la contre-société qui ne cesse pour l'instant de marquer des points, naturellement en usant et en abusant de la faiblesse de l'État qui n'ose effectivement riposter de peur, naturellement, on l'a bien compris aussi, qu'il y ait un mort parmi les manifestants qui serait naturellement le déclenchement de meutes encore plus considérables. Et donc, il faut bien sûr entrer, me semble-t-il, dans ce que Boualem Sansal, qui sort son livre ce matin, appelle la peau du guerrier, c'est-à-dire ne pas craindre le combat. Lui-même est très combatif dans ce livre qui sort, Le prophète, dont il vient de parler sur Europe 1, et qui prône l'engagement politique. Il faut vraiment ne rien laisser passer, il ne faut plus reculer, il faut, de la part de ces voyous, montrer que leur projet d'humilier la France est un projet qui va se heurter aujourd'hui à, en tout cas, une résistance française. Et faire comprendre que si cette France qu'ils détestent ne leur plaise pas, eh bien, ils n'ont qu'à la quitter. De ce point de vue, il devient légitime de poser le problème du rapatriement, en tout cas, des étrangers délinquants, voire des doubles nationaux, quand ceux-ci sont hostiles à la France d'une manière telle qu'ils mettent la France en péril, si je puis dire. Et donc, la théorie de la remigration va de plus en plus s'imposer également dans le débat qui vient sur l'immigration, dans le débat qui est depuis toujours sur l'immigration et qui, pour l'instant, est exclu et est occulté par le discours officiel. Il ne doit plus être tabou aujourd'hui de parler en effet de remigration, de rapatriement. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces émeutes, ces intifadas, ces répétitions de petites guerres de rue, de petites guerres civiles, de guerres inciviles, profitent avant tout aux mouvements qui prônent non seulement la radicalité, mais aussi la rupture avec ce système qui s'effondre dans le silence des médias complices. En clair, le Rassemblement national est naturellement le premier bénéficiaire de l'effondrement de l'État. Encore faudrait-il maintenant qu'il soit à la hauteur de sa riposte face à ses émeutiers.
Et ces événements donc, que vous avez décrits, est-ce qu'ils marquent une étape supplémentaire dans le décrochage de l'autorité républicaine, de l'autorité
Malheureusement, oui, c'est un décrochage que l'on observe, que je décris maintenant depuis 20 ans, 30 ans. C'est hélas épouvantable à dire, mais tous les prémices étaient déjà lisibles dans cette conception qui a été défendue par tout un système, cette conception d'une société ouverte, d'une société multiculturelle, qui pensait que naïvement les cultures allaient pouvoir cohabiter dans l'harmonie. Alors, elles peuvent cohabiter dans l'harmonie naturellement, en règle générale, mais l'on voit aujourd'hui que par l'effet de masse et par l'effet de la désintégration, par l'effet d'un refus d'assimilation et par l'effet pervers de propagande, de politisation de partis politiques comme la France insoumise qui essaye de victimiser une partie de cette jeunesse issue d'immigration et également par l'effet pervers de la propagande islamiste dont je soutiens que le Qatar en est un des vecteurs, le Qatar qui est donc propriétaire du PSG et qui, sous prétexte de soft power à travers le football, insuffle également, on l'a vu à travers les slogans répercutés par ces jeunes imbéciles, des slogans tels que « Free Palestine » qui donc induisent des appels à l'intifada contre le colonisateur, si je puis dire, qui est aussi bien Israël quand il s'agit du conflit israélo-palestinien ou la France elle-même. Et donc il faut en effet dénoncer d'abord dénoncer naturellement les voyous, bien entendu, c'est une affaire entendue, mais dénoncer surtout ceux qui les ont armés intellectuellement, c'est-à-dire dénoncer tout ce système politique qui ne s'arrête pas simplement à la France insoumise, qui va également jusqu'au bloc central, qui lui aussi a cautionné cette société ouverte en stigmatisant, en criminalisant tous ceux, et j'en suis depuis longtemps, qui alerte sur cette grande naïveté à vouloir croire qu'une société multiculturelle serait une société autre qu'une société multiconflictuelle. On voit effectivement que les germes d'une guerre civile sont là depuis longtemps. J'ai fait un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelait « La guerre civile qui vient » et malheureusement tout concorde pour me donner raison. J'aurais aimé avoir tort. Et simplement, le plus grave, c'est de voir effectivement cette omerta, cette, cette volonté de fermer les yeux qui parcourt encore le pouvoir en place, et pour la bonne raison que si le pouvoir en place ouvrait les yeux, il se rendrait compte naturellement de l'inanité de ces utopies, de ces fausses analyses, et il serait obligé de se remettre en cause. Il ne se remettra jamais en cause, donc ce sont aux Français eux-mêmes d'éjecter, si je puis dire, tous ces incompétents.
Oui, donc finalement, la remigration serait donc la seule solution, selon vous, pour restaurer la cohésion nationale ?
Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que la remigration serait la seule solution. Je dis aujourd'hui qu'il faut cesser de s'abriter derrière des tabous. Je dis qu'il faut naturellement penser à des réponses pénales, à des réponses judiciaires, à des réponses policières plus adéquates. Peut-être faut-il interdire maintenant d'ailleurs ces genres de manifestations dans Paris même, mais il faut aussi à un moment donné, dans la mesure où ces deux Frances se détestent de plus en plus, se poser la question de savoir si ces Français qui ne se reconnaissent plus français ont encore leur place en France. Alors naturellement, ceux qui sont de nationalité seulement française resteront en France, mais ceux qui ont des doubles nationalités ou des étrangers délinquants n'ont pas leur place en France. Ils doivent être expulsés. D'ailleurs, ils le sont dans tous les pays du monde. Vous ne pouvez pas, si vous êtes étranger, si vous commettez un acte délictueux, immédiatement, vous êtes prié de retourner d'où vous venez. Cela se passe partout, sauf en France. Donc, il faut repenser. Alors, je n'aime pas beaucoup le mot de migration. Je préférerais le mot de rapatriement, c'est-à-dire de renvoyer dans leur pays d'origine ceux des fauteurs de troubles qui ne veulent pas s'assimiler ou qui refusent de s'assimiler ou qui voient la France effectivement comme étant une puissance à conquérir. Je pense qu'en effet, il ne doit plus y avoir de tabous et d'interdits intellectuels à poser ce problème qui, pour certains leaders politiques, est résumé par ce terme de remigration qu'emploie notamment Éric Zemmour.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été avec nous ce matin ici sur Ligne Droite. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour votre prochaine chronique.
Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la Ligne Droite.
Et désormais, nous allons dans un instant retrouver Benjamin Blanchard. Benjamin Blanchard qui va nous parler de la situation du Liban.
Il n'est pas là pour le moment, hein. Je peux l'imiter si vous voulez, mais pas dans le propos.
Essayez pour voir.
Bonjour Alexandre.
C'est pas forcément réussi, on vous a connu meilleur Franck. Revenir avec Maëlys Clauzel. Maëlys Clauzel, on va reprendre un petit peu ce qu'on disait sur la question de la remigration tout à l'heure, étant donné que même finalement c'est quelque chose qui suit un petit peu toute cette matinale entre Xavier Ruffer, vous-même, et ce que disait à l'instant Yvan Rioufol. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'idée qui sous-tend un petit peu toute cette question de la remigration, c'est que en tant que membre de la droite nationale, on n'est pas forcément d'une certaine façon animé par l'idée absolue de remigrer tout le monde, quoi qu'il en coûte. En fait, déjà, la première chose, c'est de vouloir éviter des choses comme ce qui s'est passé ce week-end. Vous étiez à Porto, vous ne l'avez pas vu, mais moi, j'étais à Paris, avec les violences qui sont arrivées après la victoire du PSG en Ligue des Champions. D'une autre manière, je pense que la priorité, comme le disait Yvan Rioufol, c'est les délinquants étrangers dehors, c'est quelque chose qui, c'est la prison puis l'avion, c'est quelque chose qui a déjà été largement dit.
Oui, complètement. On cesse de le répéter, mais la priorité de la remigration, c'est justement de renvoyer tous ces délinquants étrangers qui manifestement privent certains Français, par exemple, de se rendre à des commémorations de victoires, notamment de victoires sportives, de victoires du Paris Saint-Germain. Enfin, je suis convaincue qu'il y a en France des jeunes enfants, notamment à Paris, qui ont été complètement interdits par leurs parents de se rendre, par exemple, sur les Champs-Élysées pour célébrer, parce que les parents avaient certainement peur de débordements. Et ils ont eu raison, puisisque manifestement, des débordements, il y en a eu. Hein. Nous, on n'est pas très loin du Parc des Princes, à la radio, et je peux vous dire que les dégâts des débordements, eh bien, on les voit encore aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a des voitures brûlées, qu'il y a des gamins qui prennent des coups de couteau lors de ce genre de victoire, eh bien, effectivement, on comprend bien que c'est des délinquants qui sont, eh bien, on n'a pas évidemment les chiffres exactement comme on le disait avec Xavier Ruffer. Par ailleurs, on a des yeux, donc on observe quand même le réel, et effectivement, la plupart des délinquants étaient, pour la grande majorité, issus de l'immigration. Donc, ces personnes sont évidemment indésirables. Oui. C'est normal. Je pense que chaque peuple qui voit une population massive arriver comme ça chez elle et surtout se comporter de la sorte est en droit de dire bah, qu'en fait ils n'en veulent plus puisque ça prive manifestement leur propre
surtout que effectivement il y a un côté où ça relève presque du bon sens et d'une certaine façon on est un petit peu toujours pris en otage par la gauche là-dessus qui d'une certaine façon, essaye de, enfin, avance des arguments d'ailleurs qui sont pas toujours mauvais, hein, mais certains arguments comme quoi en fait finalement, et d'ailleurs c'est ce qu'on voyait avec cette question de la victoire du PSG, comme quoi c'était pas si grave, comme quoi en fait ils ont, par exemple, ce qui est assez amusant, c'est que la gauche a préféré montrer les scènes où finalement ça se passait bien, parce qu'évidemment faut pas exagérer, c'est-à-dire que Paris n'était pas à feu et à sang, il y a pas eu des centaines de morts, on n'était pas non plus dans une situation de guerre civile comme on le dit parfois, c'est-à-dire que on était dans une situation d'émeute d'une certaine façon, mais c'était, enfin il y a quand même eu plein de bon moment, enfin moi je vais vous dire, pour être tout à fait franc, juste après la victoire du PSG, je suis sorti un petit peu dans les rues pour sentir l'ambiance. Et en réalité, oui, il y avait des jeunes qui tiraient au feu d'artifice, mais qui tiraient pas sur la police, c'est-à-dire qu'ils tiraient tout simplement en l'air pour célébrer la victoire. Il y avait des milliers de personnes dehors en train de klaxonner, en train de faire la fête, en train de s'amuser. Alors, qu'on apprécie le foot ou pas, je pense que dans tous les cas, à Paris, c'est quelque chose qui est assez normal, mais la gauche, pour le coup, a refusé de le voir, comme de manière générale, en fait, elle refuse de dire même qu'il y a un problème d'insécurité, parce que le problème d'insécurité, elle sait qu'il est lié à l'immigration, donc, finalement, si c'est lié à l'immigration, ça pourrait mener à la remigration, donc, il faut nier le problème de l'insécurité.
Bah oui, c'est complètement le narratif de la gauche, hein. on est habitué avec eux. Ils mettent en avant simplement ceux qui entrent entre guillemets dans leur agenda idéologique, voilà. Donc forcément, il y a eu une vidéo qui a été assez virale, notamment de cette mamie qui était un peu au milieu d'une scène de liesse entre jeunes, hein, si on peut les appeler comme ça, et qui était tout à fait sympathique à voir. C'est le genre d'image qu'on voit assez rarement, notamment quand on voit les protagonistes.
Et quelque part, même en étant de droite nationale, il faut être capable de dire aussi que c'est de très belles images, c'est agréable, finalement, évidemment que c'est pas des problèmes partout, en permanence, tout le temps.
Non,
et
puis j'ai envie de vous dire, heureusement.
Oui,
ça serait bête que victoire du Paris Saint-Germain, bon, personnellement, je porte pas le PSG dans mon cœur, mais ça, c'est aussi mon côté sudiste qui parle. Voilà, mais en tout cas, c'est toujours des moments qui sont censés rimer avec joie et avec festivité, si j'ose dire. Donc non, heureusement, il n'y a pas que ça. Par ailleurs, il y en a quand même eu, et c'est important de le dire, et c'est surtout important d'expliquer que oui, en fait, avec la remigration, eh bien, on pourrait se passer de scènes comme celle-ci.
Merci beaucoup, Maëlys Clausel. Écoutez, peut-être qu'on vous retrouvera dans 5 minutes, je l'ignore. Merci d'avoir été avec nous.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et nous retrouvons donc Benjamin Blanchard, directeur de SOS Chrétien d'Orient. Vous êtes également patron d'émission sur Radio Courtoisie, magnifique titre aussi. Benjamin Blanchard, merci d'être avec nous ce matin. Je voulais revenir avec vous d'abord sur la situation libanaise, qui est une situation à la fois d'escalade et d'enlisement de l'armée israélienne, donc dans le sud du Liban. Déjà, quelque chose qui peut être à peu près assez surprenant, c'est qu'il y avait eu un cessez-le-feu qui avait été déterminé, et visiblement, il n'est pas tellement respecté.
Alors lequel, j'ai envie de dire, parce que on a l'impression que Donald Trump fait un concours de cessez-le-feu, puisque régulièrement, il annonce qu'il a obtenu un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, et hier soir, je crois, ou cette nuit, il a obtenu un nouveau cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah qui s'ajoute au précédent. Alors, gageons qu'il ne sera pas plus respecté que le précédent. Alors, vous parliez d'enlisement, c'est fort probable, mais j'ai envie de dire l'armée israélienne a l'habitude de l'enlisement au sud du Liban, puisque souvenons-nous qu'elle l'avait déjà occupé cette zone pendant plus de 20 ans, jusqu'en 2000, et avec une évacuation sous les colibés de la population. Alors cette fois-ci, ils n'ont pas pris ce risque-là, puisqu'ils ont vidé toute la région de ses habitants.
Oui, et alors, mais ce qu'on observe tout de même, c'est que malgré le fait que la région soit vidée, les frappes se poursuivent. Alors pourquoi ?
Bah, c'est logique, puisque les habitants étaient vidés de leur région, donc les combattants du Hezbollah sont partis avec. Donc ils ne se sont pas évaporés, ils ne sont pas partis sur Mars, ils sont simplement remontés un peu plus au nord, les habitants, mais aussi les combattants du Hezbollah. Et j'imagine bien qu'ils n'ont pas laissé leurs armes derrière eux. Mmh. Donc ils continuent de tirer sur les forces israéliennes, donc maintenant qui ne sont plus au nord d'Israël, mais qui occupent le sud du Liban. Mmh. Et puis donc ça va être le prétexte pour Israël pour aller encore plus au nord. Et donc, que va-t-il se passer?
Mais parce que là, il remonte encore au nord, là, pour l'instant.
Voilà. Que va-t-il se passer? Ben, la population va remonter au nord avec, parmi elles, les combattants du Hezbollah, avec eux, leurs armes. Et donc, ça va continuer. C'est un cercle vicieux, mais on sent bien que là-dedans, il y a quand même un objectif israélien qui est parfois assumé chez certains de nos ministres favoris dans le gouvernement israélien. Et puis, pour d'autres, plus discrets, moins assumés, mais c'est d'occuper une partie non négligeable du Liban pour ensuite s'étendre et la coloniser et l'habiter.
Vous pensez qu'il y ait un réel objectif, vous, de conquête, comme l'a été le plateau du Golan à l'époque, un objectif, oui, d'agrandir tout simplement le territoire israélien?
Alors, le plateau du Golan, donc qui est la province de Kunetra en Syrie, a été occupé pendant 30 ou 40 ans avant d'être annexé il y a quelques années. Donc, ouais. Il a fallu attendre très longtemps. Simplement que ça correspond à l'évolution politique israélienne. Il y a eu des occupations. Il y avait un but militaire, comme le sud du Liban, comme le Golan. Mais maintenant, il y a clairement une volonté d'expansion. Et on l'a vu, c'était déjà le même gouvernement avec Benjamin Netanyahou, d'annexion du Golan. Et là, il semblerait bien que si la dynamique politique reste telle qu'elle est en Israël, l'occupation du sud du Liban n'en reste pas une occupation purement militaire. Et bon, ça, seul l'avenir le dira, mais en tout cas, certains officiels israéliens, devrais-je dire plutôt, sont très clairs, ils veulent l'annexion et la colonisation du sud du Liban. Et ce ne sont pas tous les officiels israéliens.
Oui, oui, on pense notamment évidemment à Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui eux, pour le coup, sont ceux qui sont les plus virulents sur ces sujets.
Et ça ne devrait pas s'arranger, puisque les élections législatives israéliennes, qui sont prévues à l'automne, donc normalement début septembre, les sondages sont très favorables au parti Force Juive d'Itamar Ben-Gvir. Mmh. C'est un peu plus difficile pour celui de le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich, parce que cette fois-ci, il devrait concourir séparément, contrairement à l'élection précédente. Mais finalement, les deux, en tout cas selon les sondages actuels, les deux seraient en mesure d'entrer au Parlement, de rester au Parlement avec un nombre de députés plus important que dans l'actuel Parlement.
Oui, mais alors peut-être pas au gouvernement. C'est-à-dire que c'est un point peut-être de politique israélienne interne qu'on peut aborder rapidement, mais c'est que le Likoud de Benjamin Netanyahou, lui, est quand même plus en difficulté. C'est pas certain que lui se maintienne au pouvoir pour les années à venir.
Alors, c'était vraiment le cas jusqu'au début de la guerre en Iran. Et là, depuis 3 mois, les sondages sont de nouveau sur une dynamique favorable pour Benjamin Netanyahou. Et les derniers sondages le donnent sa coalition au coude à coude avec la coalition d'opposition. Mais en tout cas, aucune des deux coalitions ne serait en mesure de former une majorité absolue, puisqu'il y a les partis arabes. Mmh. Qui serait un peu juge de paix. Et comme l'opposition est aussi très nationaliste, très à droite, etc., ça semble compliqué de voir que les partis arabes puissent s'accepter de s'allier avec un tel ou un tel. Mmh. Donc, ce qui pourrait être, à mon avis, le plus probable, c'est qu'il n'y ait pas de majorité possible et donc qu'il retourne aux urnes comme il y a 4 ans, en fait. Il y a 4 ans, il y avait eu 3 ou 4 élections d'affilée, je ne me souviens plus. Mmh. Et pendant ce temps-là, M. Netanyahou resterait au pouvoir puisqu'il serait le gouvernement démissionnaire. Et il y a 4 ans, il avait fait pratiquement un an et demi en plus sans majorité avec des élections successives. Donc c'est ce qui, en tout cas, si l'élection avait lieu aujourd'hui et en l'état actuel des sondages, c'est ce qui se passerait.
Alors, une autre question qui peut se poser dans ce cadre, c'est qu'on a l'impression que désormais, on est dans une situation dans laquelle une sorte de, pour faire simple, de nouvelle guerre des six jours semble à peu près tout à fait exclue, et que Israël est vraiment maître de cette partie de la région, sans réel rival, étant donné que la plupart des capacités militaires de l'Iran ont été détruites, étant donné que également... la Syrie ne représente plus une menace pour Israël, sans parler évidemment du Liban. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient permettre justement d'arrêter cette expansion territoriale d'Israël?
Je crois que je vais citer Régis Le Sommier, qui était à ce micro-là il y a deux semaines ou trois semaines sur ce sujet, qui disait que le principal ennemi d'Israël, c'était pas le Hamas ou le Hezbollah, mais la baisse de popularité d'Israël aux États-Unis. Et je pense que c'est vraiment tout à fait ça, puisque Israël tient surtout grâce à l'appui américain, grâce au soutien militaire, aux ventes ou aux livraisons d'armes américaines. Et c'est vrai que la politique de Benjamin Netanyahou et de sa coalition met à mal la popularité d'Israël aux États-Unis. Alors ça ne se ressent pas dans les faits tout de suite, puisque l'administration actuelle semble très, très attachée au soutien à Israël, même si apparemment la nuit dernière, le président américain a grondé littéralement le premier ministre israélien, il l'aurait traité de fou.
Oui, c'est ça. Alors c'est une citation qui a été rapportée donc par Axios, qui dirait que, enfin voilà, Donald Trump aurait dit à Netanyahou dans un appel téléphonique: tu es complètement fou, tu seras en prison si ce n'était pas grâce à moi, je te sauve, je te sauve le cul, tout le monde te déteste maintenant, tout le monde déteste Israël à cause de ça. Est-ce que c'est pas quand même une inflexion qui est particulièrement préoccupante pour Netanyahou ?
Oui, c'est préoccupant jusqu'à demain, puisque demain, Donald Trump dira que Netanyahou est le meilleur dirigeant qu'il ait jamais connu, le meilleur premier ministre qui ait connu Israël, et que c'est un tough guy, et qu'il est très fort, etc. Donc ça, c'est... Oui, je sais pas si c'est possible de se fier aux propos un peu aléatoires de Donald Trump, mais en tout cas, plus profondément, on voit qu'il y a une érosion de la popularité d'Israël aux États-Unis, et d'ailleurs, ce qui est notable, y compris dans la communauté juive américaine. Apparemment, pour la première fois, une majorité de juifs américains soutiennent la création d'un État palestinien. Et ça, c'est une évolution qui est un peu sur un moyen terme, qui dure depuis des années, et qui pourrait avoir des conséquences un jour sur les administrations, puisque... Bien sûr, les élections ont des conséquences. Donc, au bout d'un moment, les dirigeants finiront peut-être par entendre l'opinion américaine.
Et autre citation, pour le coup, de Benjamin Netanyahou, qui répond à cet appel, qui dit: j'ai discuté ce soir avec le président Trump et je lui ai dit que si le Hezbollah ne cesse pas d'attaquer nos villes et nos citoyens, Israël attaquera les cibles terroristes à Beyrouth. Notre position reste inchangée. Parallèlement, Tsahal continuera à agir comme prévu dans le sud du Liban. Donc, en réalité, c'est toujours cette même question qui est posée, c'est la question du désarmement du Hezbollah, comme se pose également, enfin se posait et théoriquement se pose encore la question du désarmement du Hamas. En réalité, le Hezbollah, on le rappelle, hein, mais c'est également un parti politique au Liban. Est-ce que il est
vrai... ministre actuellement qui est dans le gouvernement.
Voilà. Est-ce qu'il est vraisemblable que le Hezbollah finalement perde sa branche armée au bout d'un certain moment?
À mon avis, il y a eu une fenêtre d'opportunité au tout début de la guerre en Iran, quand le Hezbollah a tiré des roquettes sur Israël, a attaqué Israël, et provoquant la réponse d'Israël. Et là, ça avait créé vraiment une réprobation quasi unanime au Liban, y compris de l'autre parti chiite, du président du Parlement, Nabir Berri, le parti Amal. Et puis ensuite, la réponse israélienne, qui a très vite été claire, qui était de vider le sud de ses habitants puis de l'occuper, en fait, était tellement inadmissible et insensé s'il s'agissait seulement de désarmer le Hezbollah, puisque, comme on l'a démontré au début, ça ne peut pas marcher comme ça, puisque le Hezbollah remonte au fur et à mesure de l'avancée et donc conserve ses armes. Et donc, suite à ça, je vois pas très bien que... Comment ça pourrait fonctionner. Et donc le Hamal s'est ressoudé avec le Hezbollah, le bloc chiite s'est ressoudé, et donc à partir du moment où le bloc chiite est soudé, Je pense que le Hezbollah tient bien ses positions et la seule solution, ça serait d'arriver à dissocier ces deux-là. Et c'est sûr que c'est pas en agissant comme ça qu'on pourra les dissocier, parce que les chiites, c'est au minimum un tiers de la population du Liban.
Si notamment ceux qui ont migré depuis le sud du Liban après l'occupation israélienne.
Voilà, exactement. Et donc, si la majorité de celle, ou la quasi-unanimité de cette population vote pour la coalition autour du Hezbollah, je vois pas trop ce qui est possible de faire contre eux, à moins de mettre le feu au pays, de créer la guerre civile. Pour pouvoir agir contre le Hezbollah, il faudrait qu'au moins l'autre parti, qui représente à peu près la moitié des voix, la moitié des députés, soit d'accord pour cela.
Mais ce qu'on comprend, c'est, ça veut dire que, d'une certaine façon, la situation libanaise ne se réglera qu'en interne au Liban.
Oui, en interne, avec sûrement des influences extérieures. Et donc l'Iran, puisqu'on sait bien que le Hezbollah, hélas, est un obéit peut-être encore plus qu'avant, au doigt et à l'œil à Téhéran. Donc c'est peut-être pour ça que le président américain s'implique sur un cessez-le-feu de la part d'Israël, puisqu'il est en train de négocier une paix avec l'Iran, et qu'on imagine bien que pour l'Iran, le Liban fait partie de l'équation. Et donc l'Iran ne laissera pas, sauf s'il n'a pas le choix, mais tant qu'il a des cartes en main, le Hezbollah en fait partie, donc le Liban fait partie de la négociation.
Mais donc ça veut dire que l'Iran utilise le Hezbollah comme moyen de rendre Israël instable dans la région ?
Ouais, l'Iran l'a toujours fait, hein, la création du Hezbollah, il faut rappeler les faits, hein, c'est au début des années 80, en réaction à l'occupation du sud du Liban par Israël. Donc les mêmes causes vont provoquer les mêmes effets. Et si ce n'était plus le Hezbollah, parce que le Hezbollah venait à être détruit, un autre groupe, gageant qu'un autre groupe se créerait, un autre groupe de résistance face à l'occupation. Ça se passe toujours comme ça, c'est humain. Mais donc, il y a eu ce groupe qui a été créé, et en fait, très vite, ou dès le début, l'Iran a mis la main dessus, et c'était vraiment le bras armé de l'Iran au Liban. Comme d'autres partis furent parfois très liés à d'autres régimes de la région, y compris Israël a aussi ses cartes politiques au Liban.
Et alors justement, ce que j'avais demandé, c'est quels sont les moyens de pression israélien en interne au Liban ? C'est-à-dire qu'au Liban, est-ce qu'il y a un parti qui soutient encore Israël ou qui manifeste une quelconque amitié envers Israël ? Ou alors, est-ce que finalement, tout le pays est vent debout contre ce qui est en train de se passer actuellement ?
Non, tout le pays n'est pas vent debout. Bien sûr, tout le pays déplore les destructions, mais une partie du pays, et donc principalement les chiites, mais aussi une partie des chrétiens et peut-être une partie des sunnites, mais peut-être un peu moins, mettent la responsabilité sur Israël en disant la réponse est disproportionnée par rapport aux frappes du Hezbollah. Et l'autre partie, donc la très grande majorité des partis sunnites et le principal parti chrétien actuel disent l'inverse, et la responsabilité principale pèse sur le Hezbollah, il faut détruire ce cancer qui ronge le Liban, etc. Et donc Israël est le bienvenu pour remédier à cela. Sachant que, si on fait un peu d'histoire, en 1977-1978, quand Israël a occupé le sud du Liban, c'était aussi, quand l'armée israélienne était intervenue au Liban, c'était à l'appel de certains partis politiques libanais qui étaient au gouvernement. Tout comme les Syriens d'ailleurs, puisque la Syrie était venue au Liban à l'appel du gouvernement libanais. Donc dans les deux cas, c'était pour lutter contre les Palestiniens, contre l'OLP. On a vu que ça a duré quelques décennies, mais visiblement, je sais pas, peut-être au Liban comme en France, on ne regarde pas toujours l'histoire, ou on oublie assez vite, et c'était assez inquiétant de voir d'aucuns appeler à l'occupation du pays par Israël, et j'entends même parfois des Libanais qui appellent la Syrie, donc de M. El-Shara, à venir les aider à se débarrasser du Hezbollah. Alors, quand on a vu le temps que ça a duré la fois précédente...
Oui, et puis même les souvenirs que ça a laissé, effectivement, parce encore une fois, dans l'ensemble, dans la majorité de la population libanaise, on a l'impression que, évidemment, les occupations ont été toujours très mal vécues, au moins a posteriori, et que d'une certaine façon... Mais est-ce que... une question peut-être naïve, mais est-ce qu'on peut laisser les Libanais s'occuper du Liban ou est-ce que c'est irréaliste ?
Oui, ça serait bien sur le papier, mais c'est un petit pays entouré de pays plus puissants que lui. Et en fait, dans les relations internationales, c'est une constante, hein, et c'est pas nouveau. On utilise toujours des populations pour agir, pour peser sur le pays. Oui. On le voit bien en France, certains pays... voisins, alors peut-être qu'il y a une mer qui nous sépare, mais utilise certes, une partie de la population vivante en France pour tenter d'influer la politique française. Mais la France a fait de même en Europe, oui. Notamment avec les empires multinationaux, en agitant les populations contre le gouvernement central, etc. Oui.
On pourrait même dire que les Libanais, de cette façon, ont une diaspora importante en France, et sans doute que leur position influe aussi sur la position française au Liban.
Alors, il y a évidemment une diaspora en France, un peu partout d'ailleurs, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un front uni de la diaspora qui n'est pas très organisé. Oui. Ce n'est pas du tout comme la diaspora arménienne, oui, où il y a un parti quasiment unique, un parti dominant, et où ils sont très organisés avec un dîner annuel, avec des prises de position fermes et qui font la quasi-unanimité dans la diaspora au Liban, je crains que ce ne soit pas trop le cas. Mais c'est une diaspora qui reste par contre très impliquée dans son pays. Bien sûr, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens de la diaspora qui font des allers-retours régulièrement, qui essayent d'investir au Liban, qui essayent de soutenir économiquement le pays.
Et alors, je reviens sur l'interne au Liban, c'est-à-dire que le sud du pays est occupé, on l'a dit, et de plus en plus par ailleurs. D'une certaine façon, il y a évidemment une crise humanitaire et une crise économique qui sont en train de se dérouler là-bas, alors que le pays trouvait petit à petit, avant le 7 octobre, après un long chemin, à retrouver un petit peu de la stabilité. En réalité, est-ce que ce qui se passe, c'est que le Liban devient un État complètement failli, et est-ce qu'il a une possibilité, de tenir, ou est-ce qu'il là, il est redevenu complètement dépendant des aides internationales, est-ce qu'il est redevenu complètement dépendant de l'humanitaire internationale, etc.
Alors l'État libanais, oui, ça fait un moment qu'ils sont plus ou moins faillis, ça s'est manifesté avec l'explosion du port
de Beyrouth,
auparavant la crise bancaire, etc. Rappelons que des centaines de milliers de Libanais n'ont toujours pas retrouvé leur dépôt, en fait.
Oui, expliquez en un mot, peut-être, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas.
Il y a eu une crise bancaire, une crise de confiance, suite à une mise sous sanction de banques proches du Hezbollah par les États-Unis. Donc, je crois que c'était en 2019, si ma mémoire est fidèle. Et ça a provoqué l'effondrement d'un système qui était une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que les banques libanaises donnaient des taux d'intérêt délirants autour de entre 15 et 20%. Donc évidemment, c'était très intéressant de placer votre argent là-bas, et ils payaient ces taux avec les dépôts des nouveaux arrivants. Et il suffit qu'il y ait une crise de confiance et que les gens demandent à retirer leurs dépôts, et là, les banques ont dit non, on ne peut pas vous le donner. Et ils ont fermé les grilles, littéralement, en fait. Ils ont baissé le rideau, et depuis, les gens n'ont jamais retrouvé leur dépôt. Et c'est vraiment catastrophique, parce que c'est un pays où c'est le principal placement, c'est le placement monétaire dans des banques. Et pour cause, parce que quand vous aviez des taux d'intérêt à 20%, évidemment qu'on n'allait pas s'amuser à placer ailleurs.
Ce qui est d'ailleurs assez frappant, c'est qu'à Beyrouth, on voit un certain nombre de voitures de luxe, parce que les gens avaient acheté avec ces taux d'intérêt, donc des voitures assez chères. Et comme les banques ont fermé le rideau, en fait, ils n'ont même pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de leurs prêts de leur côté également. Mais effectivement, et la situation est sur la situation purement au point de vue humanitaire.
Sur le point de vue économique, je voudrais distinguer l'État libanais de la situation du Liban dans l'ensemble, parce que les Libanais sont extrêmement débrouillards. La diaspora, comme je le disais, continue de s'investir pour le pays et dans le pays. Et la situation du pays, si elle est terrible, n'est pas si catastrophique que la situation pression de l'État, si j'ose dire. Alors, je ne veux pas minimiser ce qui se passe au Liban, mais finalement, l'économie libanaise dans son ensemble s'en sort un peu mieux que la situation de l'État, qui est vraiment quasi faillie, en fait. Les fonctionnaires ne sont pas sont payés, en fait, avec avec l'ancien taux, etc.
Mais je crois que les militaires et les policiers doivent faire un autre travail à côté pour avoir un salaire correct. Oui, bien sûr.
C'est ça, souvent, il y a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent qu'une demi-journée par semaine, parce qu'en fait, leur salaire ne correspond même pas à une demi-journée, donc ils continuent un peu, mais le reste du temps, ils doivent trouver d'autres travail, d'autres métiers, pardon, et donc, ce qui fait que le service qu'ils rendaient n'est pas rendu. Et donc, tout est long. Avoir un passeport, c'est long, etc.
Et sur le point de vue, justement, humanitaire, SOS Créant d'Orient est implanté, bien sûr, au Liban. Comment se passe la situation de ce côté-là? Est-ce que, justement, parmi tous les réfugiés, est-ce qu'avec tous les réfugiés, je crois qu'on compte plus d'un million de déplacés, est-ce que ça veut dire qu'on trouve des bidonvilles géants à la sortie de Beyrouth? Enfin, comment ça se manifeste concrètement?
Alors, pas complètement. Il y a beaucoup de déplacés dans des appartements, dans des maisons. Et puis, il y a eu des centres de déplacés organisés par le gouvernement et par les communautés, donc par les églises, par les mosquées, dans les écoles, etc. Et donc, les gens sont plutôt là-dedans. Mais c'est extrêmement critique comme situation, puisque ça dure et ça risque de durer encore longtemps et peut-être même de s'amplifier. Si, à Dieu ne plaise, le nouveau cessez-le-feu imposé par Donald Trump ne durait pas et que Israël mettait à exécution ses dernières annonces d'envahir encore plus au nord le sud du pays, si j'ose dire, il y aurait encore de nouveaux déplacés qui quitteraient leur région et pour venir dans la partie centrale et à Beyrouth.
Et pour justement, quelle est l'action de SOS Chrétien d'Orient présentement? Est-ce qu'il y a des chantiers particuliers que vous menez sur place?
Alors d'abord, on a été contraint par cette terrible situation d'orienter un petit peu différemment notre action et donc de mettre le paquet sur l'aide d'urgence. Donc que ce soit l'aide d'urgence auprès des déplacés dans les différents camps, auprès des familles qui sont dans des appartements et qui n'ont pas de moyens, mais aussi de l'aide auprès des gens qui sont restés dans des villes du sud.
Oui, parce qu'il y en a encore quelques-uns.
Il y a des villes qui ne sont pas encore occupées, comme Tyr, mais qui est sous les bombes, où il y a plusieurs centaines de familles chrétiennes qui sont à Tyr. Il y a des zones du sud qui ont reçu plein de déplacés, comme autour de Jezzin, donc c'est le nord du sud. Et puis il y a encore des villages chrétiens près de la frontière israélienne, mais qui sont assez difficiles d'accès.
Alors, il y a une question d'un auditeur, pardon, on va quelque part se déplacer pas mal dans la région, si ça ne vous dérange pas, mais je connais votre connaissance encyclopédique du Moyen-Orient, cher Benjamin. Un auditeur qui demande effectivement, qui remarque avec une certaine justesse qu'on n'entend plus parler aussi des Kurdes, qui pour le coup, alors eux sont ailleurs, sont plus en Irak et en Turquie, mais
en Syrie, en Iran,
c'est vrai qu'en Iran il y en a, mais donc dans l'ouest
nord-ouest,
c'est ça, oui. Et justement, qui demandait si eux qui avaient été nos alliés de circonstance donc durant la guerre contre l'État islamique, dans quelle situation ils étaient?
Alors, en Irak, la région autonome kurde fonctionne, avec ses aléas. Je ne sais pas s'ils ont réussi à former un gouvernement. Quand j'y étais il y a 3 semaines, toujours pas, après 1 an et demi, parce que les deux parties, les deux tribus dominantes, donc la famille Talabani de l'Union patriotique du Kurdistan et la famille Barzani du Parti démocratique du Kurdistan, se partagent le pouvoir, mais ont du mal à s'entendre. Donc, les uns sont à l'est, les Talabani et les Barzani, c'est tout le reste du pays. Donc voilà, mais ils ont leur autonomie par rapport au gouvernement central et ça se...
Et ils n'ont pas été touchés par justement la guerre irano-américaine, parce qu'on sait que des frappes avaient été menées donc sur la base militaire, sur des bases militaires américaines en Irak notamment.
Et françaises aussi, puisqu'il y a eu un soldat tué.
Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Mais justement, est-ce que l'instabilité qui progresse peut-être en Irak ne les touche pas de leur côté?
Non, puis ça s'est un peu calmé, il n'y a plus de frappe depuis, donc non, là ça ne les touche pas. Par contre, La question, c'est en Syrie, avec cette région séparatiste, mais qui n'est pas du tout peuplée de Kurdes, en fait. Ils sont peut-être 20% dans la région qu'ils occupaient, mais c'était par la grâce américaine. Mmh. À partir du moment où les Américains se sont retirés et ont donné le feu vert au gouvernement central syrien d'Ahmed el-Shara, l'armée syrienne a avancé. Donc l'armée syrienne, c'est les anciennes troupes du Front al-Nusra, Jabhat Tahrir al-Sham. Et donc les troupes syriennes ont avancé, il n'y a pas eu de combat réellement, puisque la coalition autour des Kurdes s'est délitée, puisque toutes les milices arabes qui étaient asservies par les Kurdes, par la grâce américaine, se sont liquéfiées et autour des Kazakhs et se sont mis du côté syrien. Il était clair qu'ils n'attendaient que ça depuis des années, mais les circonstances ne le permettaient pas. Mais dès que les circonstances l'ont permis, elles l'ont fait. Et donc la région dite du Rojava, donc ce prétendu Kurdistan syrien, a disparu un peu comme elle avait apparu, sortie de nulle part et retournée dans les limbes. Par contre, il est clair que le PKK, ce parti travailleur du Kurdistan, donc d'obédience turque, qui était au pouvoir dans le nord-est syrien, perd son influence. Là, ils ont fait des pseudo-élections pour le Parlement. Je dis pseudo parce que c'est avec un collège électoral extrêmement restreint. On parle de quelques centaines ou milliers de votants sur plusieurs millions d'habitants. Et les électeurs sont choisis par le président, donc c'est quand même assez cocasse. Mais bon, il paraît que c'est démocratique. Et le PKK n'a eu aucun élu dans les quelques élus pour la région, puisque c'était un peu en décalé. Ils attendaient que ça revienne dans le giron gouvernemental. Il a noté qu'il n'y a aucun chrétien d'ailleurs dans les élus de cette zone, alors qu'il y a beaucoup de chrétiens qui y habitent.
Pour changer. On vous félicite d'ailleurs pour votre travail à SOS Chrétien d'Orient. Merci à vous, Benjamin Blanchard, d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous dit à très bientôt.
Merci ici Alexandre de Galzin et à jeudi.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et pour cette revue de presse, nous retrouvons bien sûr, comme chaque jour, Gilles Brochard. Gilles Brochard,
bonjour. Bonjour Alexandre.
Vous m'avez offert un cadeau.
Ah, mais oui.
On va commencer par ça, parce que c'est...
Vous m'aviez dit que vous n'aviez pas lu de livre de Monterland.
Eh bien, écoutez...
L'auteur préféré de Boilem Sansal, qu'on a parlé d'ailleurs ce matin.
Alors, je ne sais pas si c'est un bon critère, mais... plus sérieusement, merci beaucoup. Bah, écoutez,
montrez-le l'image.
De Monterland, voilà ce que j'ai reçu. Ouais. Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, c'était le 18, mon anniversaire. Merci d'y avoir pensé.
C'est tout sur les jeunes filles. Du cycle des jeunes filles qui compte 4 volumes.
Hein. Très bien. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de le lire. En plus, je suis en train de terminer un Barbet d'Aurevilly actuellement. Donc, dès que je l'aurai achevé, eh bien, je commencerai mon premier Monterland grâce à vous, Gilles.
Merci.
Alors, bon, vous voulez quand même faire une revue de presse. Le climat de guérilla urbaine provoqué il y a 3 jours par les émeutiers à Paris comme en province continue à être commenté.
Oui, à commencer par l'éditorialiste international Renaud Girard dans Le Figaro. Dans le village global qui est devenu le monde, que vont retenir de la France en ce début de mois de juin 2026 ? Les centaines de millions d'Asiatiques, d'Américains, d'Africains qui s'informent en regardant la télévision ou en consultant les grands sites d'information, écrit-il. Retiendront-ils les images du château de Versailles ou celles de l'avenue des Champs-Élysées ? les secondes, bien sûr, hélas. J'ai consulté, écrit-il encore, le site de la BBC, qui est l'un des plus sérieux au monde et qui est consulté mensuellement par 139 millions de personnes à travers la planète. La photo des casseurs sur fond de flammes sur l'avenue des Champs faisait la une, alors que le forum de Versailles n'était même pas mentionné. Alors qu'on le veuille ou non, la France, par sa faute, est aujourd'hui défigurée à l'international. Et puis la question que pose Renaud Girard est essentielle, la voici. Partout dans le monde, on s'interroge comment se fait-il que l'État français, recordman du monde de la ponction fiscale, ne soit pas capable d'assurer la paix et la sécurité de ses citoyens, ce qui est le strict minimum pour un État qui dispose, rappelons-le, du monopole légal de l'usage de la violence. Et je ne pense pas que quelqu'un comme Jean-Michel Apathy ait la réponse, lui qui a agressé verbalement François-Xavier Bellamy sur LCI, lui reprochant de faire entrer l'immigration dans le débat, alors qu'il parlait de faillite de l'assimilation. Mmh. Même son de cloche dans Le Parisien avec ce gros titre en une, inadmissible. Nicolas Charbonneau s'enflamme, c'est une forme de schizophrénie authentiquement française, être tout à la fois capable de séduire le monde entier, mais de se saborder soi-même. C'est si rare de se faire du mal à ce point que c'en est devenu une spécialité. On aura du mal à trouver un autre pays où le bonheur de remporter une compétition, d'être sacré champion d'Europe ou d'attirer les investisseurs se termine en naufrage. Nos festivités seraient-elles le baromètre qui sert à mesurer le chaos.
Et du côté des sanctions?
Alors beaucoup de condamnations, beaucoup de sursis comme d'habitude. Le Parisien a suivi les audiences du tribunal de Paris ce lundi où comparaissaient les prévenus impliqués dans les heurts en marge de la victoire du PSG. Et voici un passage. 400 euros de préjudice moral pour un fonctionnaire qui s'est fait cracher dessus près du Champ de Mars par Hichem S, Algérien de 20 ans, casier vierge, qui vit à Barcelone. « Je suis venu faire la fête à Paris avec des amis », prétend-il par la voix d'un interprète. Tête baissée, nez balafré, son maillot du PSG ne suffit pas pour le croire. C'est le cas typique de ces étrangers venus spécifiquement ce soir-là pour des vols avec violence, excusez-moi, estime le procureur qui réclame 10 ans d'interdiction de territoire français, car Hichem a été surpris en train d'arracher une chaîne en or. Il écope de 10 mois de prison avec sursis, une interdiction de territoire français pendant 5 ans. Donc voilà, on demande 10 ans, il a eu 5 ans. Vous êtes tenu de quitter la France le plus vite possible, lui précise le président. Ce lundi après-midi, 68 gardes à vue étaient toujours en cours, précise le parquet de Paris, et 61 procédures ont été classées.
Et du côté de Laurent Nunez?
Alors je vous conseille le portrait en dernière page des Échos, signé de façon assez caustique par Derek Perrot. Quand ça coince, le PSG a la méthode Doué. Nunez, lui, a la méthode Coué. Les violences liées au narcotrafic explosent, mais pardi, c'est la preuve que les trafiquants paniquent face à la répression de l'État. L'Algérie, dont ce fils de pied noir recevait lundi son homologue, ne reprend encore qu'au compte-gouttes ses ressortissants sous EQTF. C'est un signal très positif. Les rodéos urbains, les rêves partis, les tirs de mortier, les ballons d'azote, sa loi riposte arrive, tremblée jeune délinquante, Nunez a lâché les sénateurs. Tout va bien, on vous dit. Bref, arrêtez de regarder ces news et de vous inquiéter. Le ministre en a assez de ces gens qui disent que c'est le chaos.
Encore une fausse polémique alimentée par une certaine presse.
Oui, alors il s'agit de la journaliste russe Xenia Fedorova, dont la presse parle depuis quelques jours et qui est montrée du doigt car elle s'exprime régulièrement à la fois sur les antennes d'Europe 1 et sur les plateaux de CNews. On reproche à l'ancienne patronne de RT France, Russia Today, d'avoir un permis de séjour en France. Le Monde, daté d'aujourd'hui, lui consacre 6 colonnes, signées Ariane Chemin et Ivan Trippenbach. Elles ont l'air de s'offusquer que l'État français, enfin l'administration française, ait octroyé à cette journaliste en 2024 une carte de résident de 10 ans, comme si cela n'arrivait pas à d'autres sortissants russes sur le sol national. Mais voilà, elle travaille pour le groupe Bolloré et donne son point de vue personnel sur les affaires du monde. Et cela ne plaît pas. Plus encore, les deux journalistes qui signent cet article rappellent des faits qui ont eu lieu sous les ordres du château de Versailles le 29 mai 2017 et qui ne sont pas à l'honneur du président de la République. Celui-ci donnait une conférence de presse en présence de Vladimir Poutine, invité pour l'inauguration d'une exposition sur Pierre le Grand au Grand Trianon de Versailles. Accréditée dans la délégation du chef du Kremlin, Xenia Fedorova, écrivent-elles, se plaint en russe de ne pas avoir eu accès au QG de campagne d'Emmanuel Macron. Réponse cinglante du président français devant Poutine. « J'ai toujours eu des relations exemplaires avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. » Et de poursuivre, quand les organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Emmanuel Macron lui oppose alors une fin de non-recevoir. Et de cet échange, écrivent les journalistes du Monde, Xenia Fedorova a gardé l'image d'un jeune président ivre de lui-même, entre guillemets, raconte-t-elle dans son livre « Banni ». C'est le titre, hein, publié en 2025 chez Fayard. Alors certains de nos auditeurs ont sans doute lu la tribune dans le JDD de ce dimanche, signé Arnaud Lagardère et Gérald Brice Vinet, directeur général du groupe Canal+, auquel appartient CNews, et qui écrivent tout simplement que Xenia Fedorova apporte sur le conflit russo-ukrainien un éclairage que l'on n'entend pas ailleurs, et le propre d'un média attaché au pluralisme est précisément de faire entendre ses points de vue différents, ajoute-t-il. Alors j'ajoute que Le Monde affirme que la presse russe s'est emparée de l'affaire pour défendre Vincent Bolloré, véritable cible de la campagne très agressive lancée contre Xenia Fedorova. Voilà, à suivre.
Oui, alors à suivre et à débattre aussi. Mais bon, merci beaucoup Gilles.
Zone libre.
Et pour cette zone libre, eh bien, tout le monde avait une info, donc j'attends tout le monde en studio. Mais
commencez par Gilles, oui.
Commencez par Gilles.
Alors moi j'en ai une. Est-ce que vous connaissez les deux culs? Le cul comme le cul. Hein,
il n'en connaît qu'un, lui.
Ah, alors, bah, oui, alors il va falloir y aller parce que je ne suis pas encore.
Vous savez que pour les animaux, c'est la lettre Q en ce moment.
Ah bon ?
Eh oui, si vous avez un chat, il faut l'appeler queue de cerise, par exemple.
Ah oui, d'accord.
Donc ça, il s'agit des poulains jumeaux aux yeux bleus qui sont nés, vous savez. Alors, je ne sais plus exactement. Ils sont nés exactement.
Et vous êtes en train de prendre le travail de Magda, là ? Bah, sur la nouvelle animalière, là.
Eh oui, mais alors dans Le Parisien, vous avez la photo de ces deux petits poulains.
On la voit à l'image.
Qui sont nés et qui ont failli mourir et qui ont été accueillis par la fermière qui a aidé la jument à sortir ces deux poulains.
Vous me direz, c'est trop choupi.
Quand il y en a poulain, il y en a plus deux.
Oh
et,
là là.
Et
oh là.
Ils sont adorables.
Vous êtes en train de prendre le travail de Franck, là.
Moi, c'est ça, c'est alors, exactement ça.
En plus, mon cher Alexandre, c'est que vous savez que j'ai un jumeau, j'ai deux sœurs jumelles, que mon père avait une jument quand il vivait au Maroc. Camiba, deux petits poulains. Oui. Donc voilà. Alors, il y a toute l'histoire dans l'édition du Parisien avec les photos de ces poulains qui ont maintenant 45 kilos. Je rassure la maman, puisqu'ils sont nés, ils avaient à peine 18 kilos. Et maintenant, ils ont repris
du
poil de la bête.
Voilà.
Et à eux deux, ils font le poids de Gilles, du coup.
Oh, oh là là, là. Donc, c'est sympa.
Vos sœurs ont des prénoms qui commencent par Q, Gilles aussi.
Oh là là, là. Bon, je crois que la séquence est désastreuse. Merci Gilles. Et vous, Richard,
moi, je voulais vous parler de chimpanzés qui.
C'est super. Tout le monde respecte parfaitement l'esprit de la zone libre.
Voilà, et qui gardent leur style de dessin pendant des années. Quand un chimpanzé apprend à dessiner, c'est un peu comme un député macronien, il ne change pas du tout de style. Bah, il est
mais
fixé.
Qu'il est en responsabilité, le chimpanzé.
Il est en responsabilité. Le mâle Zamba remplit sa feuille de petits points compacts disposés en grappes denses, un peu comme un Gabriel Attal. La femelle Misaki, quant à elle, produit de grands motifs en éventail, un peu comme Yaël Braun-Pivet.
Oh là là.
Et donc, l'analyse systématique de 494 dessins produits entre 1999 et 2012 par 6 chimpanzés hébergés au Great Ape Research Institute montre que ces animaux, qui d'ailleurs, je tiens à le rassurer, n'ont pas été violentés, ils participent librement à des séances de dessin proposées comme activité d'enrichissement cognitif, exactement comme un député de LFI se fait élire à l'Assemblée nationale, sans récompense conditionnelle, sinon les frais de représentation. Mais voilà, donc, ils ne changent pas. Et en revanche, on se rend compte que les trois dimensions graphiques, le remplissage, autrement dit le taux de participation au vote, la forme, autrement dit l'adaptation au discours de politique générale, et la couleur, autrement dit le parti auquel on appartient, ne change pas. Donc une fois que vous êtes inclus à l'intérieur d'un parti, vous êtes demeuré à jamais
Une ligne droite.
Voilà, exactement.
Et bien dans une ligne droite, c'est comme ça qu'on va terminer cette matinale.
Parce que j'ajoute simplement qu'en Inde,
je faisais une super conclusion.
On fait travailler les éléphants en Inde, on leur met un pinceau et ils peignent.
Ah oui,
ouais. Ben, ils ont de la mémoire.
Et est-ce qu'ils gardent le même style ? C'est peut-être une autre question qu'on se posera pour une autre matinale. Merci, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ici ce matin sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Je précise simplement que cette semaine, je ne serai pas là ni mercredi, pardon, ni jeudi, parce que je serai à
ça comme
Bruxelles.
Ça,
oui, je suis désolé, à Brûle-Pourpoint. Mais avant que vous partiez, pour ne pas me faire de peine, il va falloir que vous fassiez un don.
Voilà, si vous voulez qu'Alexandre revienne... Non, ça va pas marcher, ça. Si vous voulez aider Radio Courtoisie, envoyez vos dons, s'il vous plaît, en ligne pour soutenir notre indépendance. Et vous êtes les seuls financiers, donc nous avons besoin de vous. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Merci, merci, merci d'avance.
Merci beaucoup, et tout de suite, on retrouve Xavier Hofer qui nous parle des violences à Paris. D'où vient la barbarie ?
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, eh bien, nous allons parler des violences qui sont advenues ce week-end à Paris, en marge donc de la victoire du PSG face à Arsenal à la fin de la Ligue des Champions. Violence à Paris, la question que vous voulez vous poser, Xavier Roffer, nous vous recevons aujourd'hui. Vous êtes criminologue, je le rappelle, professeur associé au département de recherche dans sciences criminelles de plusieurs universités. Et puis, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés justement à ces questions de criminalité et de terrorisme. Tout d'abord, la première question qui se pose en dressant le constat, quand on écoute Laurent Nunez et qu'on se rend compte que Laurent Nunez explique que tout était globalement sous contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois que d'abord, il faut faire un diagnostic, c'est-à-dire, comme en médecine, on commence par voir ce qui se passe et puis après ça, on donne un traitement. Mmh. Alors d'abord, le diagnostic. Les fondamentaux sont ceux-ci. Il y a, en France, mais dans d'autres pays européens analogues aussi, trois formes de délinquance et de criminalité qui empoisonnent la vie des gens. La première, c'est ce qu'on appelle la criminalité en col blanc, c'est-à-dire dans la société bien intégrée, des filous qui volent l'argent, s'ils sont notaires de leurs clients, s'ils sont banquiers de leurs clients, etc. Ça, pour l'essentiel, les coupables de ces infractions financières frauduleuses et autres font partie de la population originelle du pays. Mmh. Deuxièmement, les atteintes à l'environnement. Vous savez, quand une usine déverse du poison dans une rivière et puis que ça empoisonne les poissons, ouais, et qu'après ça, l'eau est absorbée par les plantes et puis que les vaches mangent l'herbe et puis que les enfants qui boivent le lait des vaches ont 5 fois plus de cancer qu'il ne serait normal, c'est une forme de criminalité très grave et qui est croissante aussi, mais elle affecte aussi, les auteurs de ces actes-là sont pour l'essentiel la population originelle de la France. Et puis, il y a le troisième point, c'est ce qu'on appelle la délinquance et la criminalité de voie publique. Mmh. Et là, c'est-à-dire les gens qui se font agresser dans la rue, c'est-à-dire les gens qui jettent des mortiers sur la police, etc., etc. Et là, 9 sur 10 de ceux qui pratiquent ce genre d'infraction sont soit eux-mêmes immigrés, soit issus de l'immigration.
On n'a pas de chiffres là-dessus, Xavier Roffer, en l'occurrence.
Bien entendu que si, évidemment, parce qu'on a, de temps en temps, il émerge des listes de gens qui ont été arrêtés. Quand on compte simplement les prénoms, on y arrive. Vous voyez, c'est pas très difficile. En plus de ça, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur donnent des fois, infraction par infraction, non seulement l'origine des gens, mais l'origine française ou étrangère, mais même l'origine par continent. Mmh. Voilà. Alors, on s'aperçoit que l'Asie, c'est 1% et l'Afrique, 40%, par exemple.
Oui.
Donc, vous avez ces trois formes d'infractions-là, et elles sont, à l'heure actuelle, claires et nettes. Et ce qui nous amène à être aujourd'hui l'un en face de l'autre à distance, c'est l'existence de gens qui sont sur le territoire français et qui s'y conduisent mal. Mmh. Autrement, nous n'aurions pas besoin d'être l'un en face de l'autre. Et pour l'essentiel, il suffirait d'une douzaine de gardes champêtres par département et ça fonctionnerait très bien. Premier point. Deuxième point, il existe en France des zones hors contrôle dans lesquelles et à partir desquelles la majorité des exactions du style de celles qu'on a vues le week-end dernier se préparent, s'organisent, et c'est ce qui s'est encore une fois de plus passé avant-hier, comme en 2024, comme en 2023 avec l'affaire Naël, et comme pratiquement toutes les semaines à un point ou un autre du territoire français. Donc on est dans ce contexte-là. Mmh. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut rigoler tant qu'on veut des propos de M. Nunez. Il n'est pas là où il est comme ministre et avant comme préfet de police par hasard. Il est là pour un seul but, comme son collègue M. Darmanin à la justice. Il n'est pas là pour tenter de résoudre les problèmes de sécurité des Français, il est là pour nier l'évidence, et ils le font l'un et l'autre très bien, de manière à permettre à monsieur, Macron, notre président de la République, d'arriver à la fin de son mandat sans avoir un Premier ministre ou quoi que ce soit qui soit du Rassemblement national ou autre. C'est ça l'objectif de la manœuvre. Donc, monsieur Nunez n'est pas là pour dire aux gens « voilà ce qui se passe et voilà comment on va y remédier ». Il est là pour camoufler, pour cacher le réel criminel et pour balayer la poussière sous le tapis. Ce dont il s'acquitte d'ailleurs très bien. Et même, il est content de lui parce que dans les propos qu'il a tenus à la suite du week-end d'émeute, là, il a dit qu'il se félicitait. Vous voyez, lui, il est content de lui. Voilà. Et la situation est celle-là. Donc, on peut revenir jusqu'à demain matin sur le fait que « oh, ils ont cassé ci, oh, bah, ils ont incendié ça, oh, ils ont tiré des mortiers sur la police ». Ok, c'est tous les ans, c'est frais.
Mais alors, justement, Xavier Hofer, le fait que ce soit tous les ans, déjà, question simple, mais ça fait à peu près combien de temps? Parce que d'aucuns comparaient ce qui s'est passé ce week-end à la Coupe du Monde 98, par exemple, qui, bon, pour le coup, représentait tout le pays et pas un seul club. En l'occurrence, d'aucuns, notamment à gauche, vont arguer que oui, le hooliganisme, ça a toujours existé, que en fait, qu'il y ait des débordements dans une fête, c'est quelque chose qui est normal. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui rend ça aussi exceptionnel dans les événements de ce week-end?
Alors, depuis que M. Macron, alors c'était déjà un peu le cas sous M. Hollande, parce qu'il avait comme ministre la catastrophique Mme Taubira, et prétendait que tous les malfaiteurs de France étaient de malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme, et qu'il fallait surtout les chérir, et surtout pas les sanctionner ou les réprimer. Alors ça, ça commençait déjà, mais disons que depuis cette époque-là, les exactions qui avait lieu, qui se déroulait uniquement dans un certain nombre de secteurs hors contrôle du territoire français, en Seine-Saint-Denis et autres, se sont petit à petit répandus sur le territoire français et affectent maintenant la totalité du territoire français. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous vous préparez à avoir les Jeux Olympiques en 2024 à Paris, à partir du moment où vous n'avez pas envie de voir une meute et des masses de clandestins sous les ponts de Paris pendant les Jeux Olympiques, eh bien vous donnez des instructions au préfet en douce, hein, parce que on dit qu'on est dans la société de l'information, mais toutes les décisions catastrophiques du gouvernement sous la présidence Hollande et après ça sous la présidence Macron se font dans un silence de cathédrale, et donc on a réparti des gens qui n'avaient aucun moyen de survie à peu près partout sur le territoire français, moyennant quoi il y en a qui se sont contentés de vivre de ce qu'on leur donnait quand même pour qu'ils survivent, et d'autres ont décidé d'entreprendre quelque chose, et beaucoup de ceux-là se sont dirigés vers le deal, donc vers les bandes. À partir du moment où vous avez à un endroit donné une bande qui contrôle un trafic de stupéfiants, la bande en question va être amenée à réagir à la police qui veut pénétrer sur ce qu'elle appelle son territoire, et c'est comme ça que l'engrenage s'est développé. Et à l'heure actuelle, un service officiel de la police judiciaire qui s'appelle le CIRASCO, qui fait les analyses un peu criminelles et autres à moyen et à long terme sur les évolutions de la criminalité en France, a dit l'an dernier qu'en matière de trafic de stupéfiants, le marqueur de cette criminalité-là, c'est le trafic de base de stupéfiants, c'est-à-dire les supermarchés de la drogue, c'est-à-dire les points de deal, etc. Eh bien, le CIRASCO a dit, je le cite, qu'il n'y avait plus de zone blanche sur le territoire français. Ça s'est répandu partout. Le travail de M. Macron, le travail de ses différents ministres de l'Intérieur ou de la justice a consisté à laisser faire, ou alors à le faire délibérément, comme pour éviter qu'il y ait des meutes de migrants sous les ponts pendant les Jeux Olympiques de Paris de 2024. C'est ça la réalité.
Et alors, je voudrais vous citer, Xavier Hofer, un petit peu Marine Le Pen, qui, justement, en réaction à un petit peu tout ce qui s'est passé, disait « Il n'y a qu'en France où la victoire d'un club de foot provoque des émeutes, il n'y a qu'en France où chacun se sent obligé de s'enfermer chez soi en soir de victoire pour éviter d'être confronté à des violences. Les Français n'en peuvent plus de ces scènes de chaos qui se multiplient sous le moindre prétexte malgré un dispositif de sécurité hors norme. Est-ce que c'est vrai que c'est un problème franco-français, toutes ces scènes ?»
Mais oui, C'est-à-dire que ce qui s'est déroulé le week-end passé et répétitivement en France depuis une quinzaine d'années n'arrive qu'en France. Quand il y a une semblable émeute ailleurs en Europe, c'est-à-dire à Londres, c'est-à-dire dans une ville allemande ou dans une ville néerlandaise, c'est une fois tous les 10 ans. Et les gens sont épouvantés et prennent des décisions qui visent à faire en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est-à-dire qu'il y a un quartier de Londres où la population qui est venue s'entasser là est assez largement jamaïcaine, qui s'appelle Brixton. Les émeutes de Brixton, on s'en souvient encore 15 ans ou 20 ans après, parce qu'il y en a eu une seule, vous voyez. Donc le côté répétitif et le côté quand il y a le Covid, il y a des émeutes, quand il n'y a pas ceci, il y a une émeute, quand l'équipe gagne, il y a une émeute, quand l'équipe perd, il y a une émeute, et le côté répétitif et chaque fois plus grave. Souvenez-vous ce qui s'est passé, enfin, 2005, 5000 voitures de brûlées, vous voyez. Donc, ça fait, on est en 2026, ça fait
puis, 20 ans. En fait, Xavier Hofer, il y a aussi ce sera peut-être ma dernière question, parce qu'il nous reste 2 minutes environ, mais quelque part, que ce soit le nouvel an, que ce soit effectivement une victoire dans un championnat ou autre, il y a toujours une bonne raison de brûler des voitures et de s'adonner comme ça au chaos. En réalité, là on est dans une situation où les Français commencent plus ou moins à s'habituer et à trouver ça normal.
Bien entendu, parce que les gens qui nous dirigent pratiquent dans leur doctrine politique néolibérale le gouvernement par la peur, c'est-à-dire qu'aux uns on leur fait peur en disant que les Russes vont arriver demain matin, aux autres on fait peur en disant voyez, restez chez vous, tenez-vous bien sages, parce que si on n'est pas là ça va être pire. Et donc c'est une forme de gouvernement cyniquement et lucidement pratiqué par des gens qui, sinon, sont tellement impopulaires, dont les cotes de popularité, dans tous les cas que je vais citer, se tient largement au-dessous de 20%, c'est-à-dire M. Starmer en Grande-Bretagne, M. Merz est une telle catastrophe que son propre parti ne sait plus trop comment faire pour s'en débarrasser. Macron en France est au sommet de tout, la cerise en haut sur le gâteau, qui est Mme von der Leyen. Tous ces gens-là, qu'ils soient élus ou pas, sont extrêmement impopulaires et tentent de survivre en gouvernant par la peur. Au-delà de ils ont tout cassé, ils ont tout brûlé, la réalité est celle-là.
Merci beaucoup Xavier Hofer d'avoir été avec nous ce matin ici sur la ligne droite, voilà, pour dresser ce terrible bilan, quelque part, espérons qu'on n'ait pas à vous réinviter trop tôt pour en reparler, et puis on vous dit quand même, dans le fond, à bientôt ici sur la ligne droite.
Ah 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir même supporté, soutenu, on va être plus gentil, dans nos histoires. Merci d'avoir suivi tous ces entretiens et simplement, si vous voulez nous remercier, quelle plus belle manière que de débourser un petit peu d'argent pour nous soutenir matériellement.
Voilà, pour assurer à Radio Courtoisie sa pérennité, sa solidité et sa liberté de ton, il faut nous aider à la financer en allant sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Merci.
Merci beaucoup. Et puis, d'un autre côté, il faut que vous nous disiez quel est le programme du jour, Franck.
Je vous dis le programme du jour dans quelques instants, les mardis de la mémoire d'Anne Collin. Aujourd'hui, le sujet avec Michel Bernard pour son livre « L'automne » d'André Derain. À midi, le libre journal des Beaux-Arts de Michel Colombin. Pour le sujet, l'univers artistique d'Iba, sculptrice. Je vous donne les directs. À 17h, populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourge. À 17h30, Restons courtois, de Richard de Sèze. Pulsion de vie et pulsion de mort. Première partie, Radu Stoïnescu et Patrice Jean explorent la philosophie de désir sexuel à travers l'œuvre de Roger Scruton. Donc Scruton, la philosophie du... Et puis à 19h30, le libre journal. Vous n'avez pas compris parce que vous n'écoutiez pas, je vous raconterai après l'émission. Le libre journal de la francophonie heureuse d'Antoine Assaf. Et à 21h30, le libre journal de la réaction d'Hilaire de Crémier. Enfin, à 23h, la soirée musicale, aujourd'hui en compagnie de Virginie, Les Planètes, suite de la suite pour grand orchestre de Gustav Holst. Voilà mon bon Alexandre.
Ouais, décidément, cette matinale était particulièrement chaotique, il faut le dire, mais d'un autre côté, c'était pas moins amusant pour autant. Et moi, je vous laisserai demain et jeudi avec Richard de Sèze,
ouais,
donc,
c'est plus sûr,
car je serai en déplacement à Bruxelles. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à mardi, 7h.
Bonne journée et pour nous à demain 7h.